Dès qu'ils sortirent de la caravane, les gardes cagoulés s'évanouirent dans la nuit. Nathalie prit la main de Clotilde pour l'aider à affronter la foule qui commençait à se presser sur la plage. Ils marchèrent en sens inverse des groupes de jeunes danseurs excités qui s'approchaient de la scène, un peu comme lorsqu'on tente de faire demi-tour dans un couloir de métro. Clotilde, perdue dans ses pensées, se laissait guider. Les adolescents et les jeunes adultes, bruyants, scintillants, fluorescents, composaient autour d'elle une sorte de carnaval, qui, loin de l'agresser ou de la déconcentrer, prolongeait la sérénité qui élevait son cœur au-dessus de la marée grouillante, faisait d'elle une spectatrice apaisée de cette meute. Nicolas n'avait pas tué ses parents. La direction de la Fuego avait bel et bien été sabotée. Cervone Spinello devenait plus qu'un suspect, un coupable tout désigné. La mort de son père, sa mère et son frère seraient vengées. Les zones d'ombre seraient éclairées. Cette ordure de Spinello devrait payer, avouer, expliquer. Pourquoi avoir volé son portefeuille dans leur bungalow, préparé ce petit déjeuner, signé ses courriers d'un P? Pour dissimuler l'assassinat de sa famille, il y a 27 ans? Clotilde enfin saurait, comprendrait, se reconstruirait. La foule se faisait moins dense sur la plage au fur et à mesure qu'il s'éloignait des néons du tropicaliste. Il ne croisait plus que quelques groupes d'ados dispersés. Clotilde en profita pour sortir son téléphone. Elle s'occuperait de Cervone plus tard. Demain matin, dès l'aube. Avant, elle voulait profiter de la nuit. Elle lâcha la main de Nathalie et s'éloigna de quelques pas. Il se tint un peu à l'écart, observant les groupes d'ados, semblant suivre avec envie les bouteilles d'alcool qui circulaient de bouche en bouche, filles et garçons, sans distinction. « Tu es où ?» Clotilde s'était contentée d'appuyer sur la touche, répétée, de son téléphone. Elle avait déjà envoyé ce message à Franck et Valentine une dizaine de fois dans la journée, sans aucune réponse de sa fille ou de son mari. Elle attendit quelques instants. Pour rien. Aucun message en retour ne s'afficha. Ok, le réseau ne passait pas forcément en haute mer, mais Franck et Valou ne naviguaient pas la nuit. L'indifférence de Valentine était habituelle. Elle répondait rarement à sa mère avant le 10e texto envoyé. Encore plus rarement dans la journée. Franck, par contre. Clotilde scruta une dernière fois l'écran vide de son portable, puis releva les yeux vers la partie noire et déserte de la plage, fermée par des rochers déchiquetés, aux allures de monstres poilus. Entre les premières pierres qu'ils enjambaient, les touffes de Christ marine crissaient sous ses pieds. À quelques mètres du rivage, au pied des écueils endormis, dansait l'ombre d'une petite barque de pêche amarrée. L'Arion attendait, ballotté par les calmes vagues, accroché à son anneau rouillé par sa corde élimée. Dans leur dos, la musique les poussait vers la mer, plus fort encore qu'un vent de terre ne l'aurait fait. Clotilde serra la main de Nathalie. « Emmène-moi jusqu'au bateau. » Nathalie la fixa, sourit. Sans un mot, il remonta son pantalon de toile au-dessus du genou. Il tint Clotilde par la main, dans le noir, comme s'il connaissait par cœur chaque ondulation du sable, chaque rocher qu'ils escaladèrent dans l'obscurité. Et soudain, avant de plonger dans l'eau, la souleva dans ses bras pour qu'elle franchisse à sec les derniers mètres, ceux qui les séparaient de la barque. Lorsqu'il déposa Clotilde dans l'Arion, tel un chargement de dynamite qu'il n'aurait fallu en aucun cas mouiller, l'eau lui arrivait à la hauteur de la poitrine, et sa dynamite même portée à bout de bras n'était plus qu'un pétard mouillé. Ils se hissèrent dans la barque aussi trempés l'un que l'autre et se laissèrent tomber au fond de la coque. Ainsi allongés, le bastingage de l'Arion les rendait parfaitement invisibles des centaines de danseurs sur la plage. La musique électro de Dépêche Mode rythmait le bruit des vagues. Le vent de mer les frigorifiait. Une sensation d'ivresse enivrait Clotilde, cette impression qu'elle vivait les derniers instants d'un long cauchemar, que dans quelques heures la vérité crèverait. Peut-être, même si c'était stupide, que Cervone et acculé finiraient par avouer que sa mère était toujours vivante, qu'elle l'avait attendue toutes ces années. une dernière fois, toujours allongée, Clotilde jeta un regard vers son téléphone portable, muet, avant de faire glisser le long de ses jambes son combi-short mouillé dans un mouvement ondulant de mue de serpent. Elle se trouvait beaucoup moins douée pour le striptease que Maria Tiara. Elle compensa par l'autodérision. « Elle t'a excitée, la belle italienne ?» Tout aussi reptilien qu'elle, Natale s'acharnait à décoller son boxeur de ses cuisses. Son polo, déjà passé par-dessus sa tête, avait servi à vaguement éponger son torse avant d'être accroché avec précaution au bastingage.
« Molto, molto !» fit Natale.
« D'ailleurs, si tu pouvais continuer de m'appeler Brad. »
« Refusé. Pour moi, tu es et resteras Jean-Marc. Et encore mon Jean-Marc dans son seul et unique rôle de l'homme dauphin. »
Ils s'allongèrent l'un près de l'autre sans rien ajouter, éparpillant en silence leurs derniers sous-vêtements. Clotilde, tout en collant son corps froid et mouillé contre celui de Natale, comprit qu'ils devraient s'aimer ainsi, côte à côte, sans même que lui puisse venir sur elle ou elle sur lui. Elle imagina que s'il refaisait un jour l'amour, ailleurs, il devrait toujours le faire ainsi, en sardine. L'image la fit sourire. Et inventer des lieux improbables pour s'aimer de cette façon. Dans un champ d'herbe haute au bord d'une route passante. Dans le lit le plus haut, presque sous le plafond d'un wagon couchette filant vers Venise. Sous la scène d'un théâtre en pleine représentation. Le bateau tanguait doucement. Sa vie aussi.
« Et si on larguait les amarres ?»
Clotilde et Natale étaient allongées au fond de l'Arion, nues sur le dos, dans un berceau sous les étoiles que la mer secouait doucement. Clotilde était aujourd'hui incapable de reconnaître Bételgeuse parmi les centaines d'astres.
« Et si on larguait les amarres ?» répéta Clotilde.
L'Arion était seulement retenu par une corde. Un coup de canif, de dents, d'ongles effilés, aurait suffi à rompre le lien avec la terre. Au loin, dans un silence de cathédrale, Maria Tiara entonnait a cappella « Sempre Giovanni ». Clotilde avait tenté de tenir jusqu'à ce chant pour ouvrir son sexe à celui de Natale, imaginant que la jouissance serait plus intense. Une ultime patience, alors qu'elle attendait cet instant, le fantasme de son adolescence, le fantasme d'une vie, depuis près de 30 ans. Elle n'y était pas parvenue. Elle n'avait pas pu résister quelques minutes de plus et avait joui pendant le refrain de Joe le taxi. Tout ça pour ça. « Et si on larguait les amarres ?» répéta encore Clotilde dans sa tête cette fois. Natale n'avait pas répondu à sa question. Clotilde n'allait pas la reposer. Ils demeurèrent silencieux, à guetter si une étoile osait filer, à perdre la notion du temps. Clotilde, du moins. « Je dois y aller, Clos. » Les étoiles dansaient comme si un dieu farceur s'amusait à les mélanger.
« Chez toi ?»«
Ma femme termine sa garde à minuit, je dois être à la maison avant qu'Aurélia rentre. » Retrouver Bételgeuse parmi les astres en vrac. L'astéroïde du Petit Prince, Castor et Pollux. N'importe quelle étoile inspirant l'amour depuis la nuit des temps.
« Pourquoi, Natale ?»
Le bateau tangua encore, mais cette fois, c'était parce que Natale cherchait en rampant son boxeur et son ceinturon, tel un amant encore ivre au petit matin.
« Pourquoi es-tu resté toutes ces années avec elle, avec une femme comme elle ?»
Il lui proposa son sourire, un sourire qui signifiait « Tu veux vraiment savoir ?» Un sourire qu'elle ne refusa pas. « Même si tu as du mal à l'admettre, Clo. » Aurélia a fait beaucoup d'efforts pour m'accompagner. Accompagner ma vie, l'arranger, la ranger. Aurélia est organisée. Aurélia est attentionnée, honnête, droite, fiable, rassurante, présente, aimante. Clotilde tenta de brûler ses rétines à la plus aveuglante des étoiles. Elle ne contrôla pas le son de sa voix qui vrilla comme une pointe de métal dérapant sur une plaque d'acier.
Ça va, je vois, je te crois.
Elle se força à la poser, à la rendre plus grave, avant de continuer.
Mais ça ne change rien à ma question, Natale. Tout ce que tu peux me dire sur Aurélia ne change rien, puisque je sais que tu ne l'aimes pas.
Et alors, Clo? Et alors? Go, go and see, my love. Nathalie était partie. Clotilde s'était rhabillée depuis quelques minutes lorsque le signal d'un message sur son portable retentit. Franck. Tout va bien, on revient dans quelques jours comme prévu, je tiens à toi. Les mots partagés avec Nathalie les cognaient encore en miroir à sa propre vie. Je sais que tu ne l'aimes pas. Et alors ?